Popol, le podcast politique qui donne la parole aux femmes.
Every time I look down on this timeless town, whether blue or gray be her skies, whether loud be her tears or whether soft be her tears, more and more do I realize.
Ah, les gens, vous êtes encore là? On croyait qu'on vous avait perdu? Attends, je vais mettre un peu plus de lumière. Si je peux. Non, c'est pas. Alors, bon, le chat. Non, c'est pas terminé. On a eu un petit problème technique. Désolé. Alors, le chat disait que. Vous nous entendez là ou pas? Ouais, c'est bon. Cool. Je vais juste essayer de mettre un peu plus de lumière si je peux sur mon tel. Ouais, non, c'est mort, je peux pas maintenant. Tant pis. Donc, la voilà en vrai, elle est là.
Je m'excusais, mais j'étais en train de parler avec des très jeunes futurs mariés puisque je les marie jeudi.
Oh.
Et genre, c'était tellement mignon. Voilà.
Oh. Et ils sont contents?
Ils sont contents.
Ils sont très jeunes comment? Merci monsieur. Ils sont très jeunes comment?
Ils sont très jeunes comme 44 et 61 ans.
Ah, ok. Enfin, jeunes mariés.
Bah, c'est des futurs très jeunes mariés en fait.
Cool, oui, bah, tu nous expliques pourquoi tu les maries. Pour comment ça se fait que tu maries des gens?
Eh bien, parce que je suis conseillère de Paris. Et voilà. Du coup, j'ai le droit de marier partout dans Paris. Donc, si vous voulez que je vous marie, n'hésitez pas. Parce que c'est quand même le truc le plus chouette à faire en tant qu'élu, c'est de marier des gens, hein, très clairement.
J'avoue. T'as déjà eu des mariages qui se sont passés bizarrement?
Des mariages qui se sont passés bizarrement. Les mariages Covid, c'était spécial. Hein.
Ouais. Bah ouais, il y avait genre 3 personnes, non bah 4 avec les témoins, c'est ça?
4 avec les témoins et par exemple, j'ai déjà eu 4 personnes dans la salle, mais toute la famille en Ukraine parce
ah.
que quelqu'un est en train de filmer.
Ah.
J'ai eu ça qui était, ah, oui. Voilà, c'est le mariage Covid un peu spécial. Il y a le moment où je réalise que si les deux mariés parlent français, le reste de l'auditoire, pas du tout.
Ah, et toi, tu blablates ton truc.
Parce qu'elle est taïwanaise et lui, franco-portugais.
Ah,
et du coup, au milieu du mariage, tu fais, bon, ben, on va le faire en anglais. Et là, tu te dis, mais
on
heureusement
commence.
Que j'ai bouffé des séries américaines où ils se marient 4 fois par saison. C'est bon, j'ai le vocabulaire.
Cool. Donc voilà, vous avez le plaisir de la voir en vrai. Moi, c'est la première fois que je te vois en vrai, d'ailleurs.
Mais c'est vrai.
Nouveau live pour moi, salut les gens. Tu peux marier à Rennes, est-ce que tu peux marier
Alors,
des gens à Rennes du coup?
Je peux marier directement à Paris et partout ailleurs en France je peux co-officier. Mais je peux pas vous marier seule.
Du coup faut qu'on s'organise avec la mère ou le maire du,
ouais.
du, de l'endroit. Ok, vous avez compris?
Si elle veut bien
si vous,
vous
si vraiment vous voulez que Raphaël Rémy Leleu soit à votre mariage, c'est possible.
Mais du coup je m'inquiète à votre
truc.
Fête de mariage. C'est
oui,
ça le
logique.
Bail en fait.
Reprise de la fac demain, c'est dur, j'imagine. Ouais, parce que du coup, on pose un peu.
Enfin, ça aurait pu être pire, les universités auraient pu ne pas rouvrir.
Ouais, c'est vrai ça. Bon, nous, on va trinquer quand même, oui. Parce que, hein, on n'est quand même pas ici pour acheter du terrain, comme on dit chez moi. Cheers. Donc, santé les gens.
Ceci n'est pas un live sponsorisé par la loi E20.
Non, pas par la loi E20. Non, clairement pas. Ni par quelconque marque d'alcool par ailleurs. Hein. On est complètement indépendant, je rappelle, Popol n'a aucune acquaintance avec quelqu'un du strict qui soit. Donc voilà. Donc on est là pour parler de l'actu politique.
Ouais.
Ça y est, c'est la rentrée. J'ai l'impression que ça ne s'est pas arrêté cet été.
Est-ce que ça s'arrête jamais?
Bah, je sais pas. À chaque fois, je me dis, ah, une petite pause, c'est l'été. Puis après, blaah. En fait, j'ai l'impression que j'oublie.
Ah, mais ça, c'est un vrai truc. On est tellement bombardé d'infos en permanence que...
Déjà, on oublie ce qui se passe, on oublie qu'il n'y a pas de pause. Il n'y a pas eu de pause cet été avec le pass sanitaire,
ça
avec
fait
ceci,
deux ans qu'on
avec
pas
cela.
Eu de pause en général, moi j'ai l'impression.
À cause de la crise, ouais. C'est vrai. Enfin, surtout toi en tant qu'élu. Ouais, moi je suis allée une petite semaine à Malte.
Ok.
C'était très cool.
Okay, pas mal.
C'était une vraie semaine de vacances. Au début je pensais bosser, puis finalement j'ai.
Oui, toi aussi t'es partie avec une liste de tâches
ouais.
en vacances. Et
ouais.
Après, tu...
ouais, ouais.
Non.
Et en fait, quand je voyais mes potes en train d'ouvrir le Prosecco, j'étais là, allez. Non, c'est pas possible. Et toi?
Moi, j'ai fait une petite semaine à Montpellier.
Ah,
et, bah, au
cool,
final,
Montpellier.
À Montpellier, n'importe quoi. Tellement l'habitude à Marseille.
Ah, ok. Bon, les deux sont très sympas. Hein. Il y a des gens de Marseille dans le, ou de Montpellier dans le live.
Et là, du coup, je vais être interdite de territoire et à Montpellier et à Marseille. Non.
Vous êtes canon, les filles, mais merci, chat.
Oh, c'est gentil, ça.
Je lis en même temps.
Oh, Charlotte, coucou.
Bravo la bourgeoise. Je suis sûre que c'est pour moi, ça.
Bravo la bourgeoisie.
Il écrit quoi sur le badge?
Ah. Ah oui. Ah, ça, c'est important. Je te laisse
en
parler.
Alors, sur le badge, il est écrit Team Sorcière. Et en fait, ça ne sert à rien d'autre qu'à vous mettre le seum parce que le spectacle est fini.
Mais ouais, mais il va tourner un peu, non?
Je sais pas. En fait, je vous propose de poser la question à Laurence Yamar, que vous allez retrouver sur Twitter, et qui a fait un super spectacle féministe intitulé Bonhomme. Je sais, ça fait bizarre. Moi-même, au début, j'étais sceptique. Mais en fait, c'est vraiment très, très bien. Et ce garçon a également des talents de graphiste. Donc ça, c'est sorcière, mais il y a plein d'autres badges. Et ce qui est intéressant aussi avec les badges, c'est que c'est à prix libre à la fin du spectacle et que ça aide à subventionner des assos féministes. Donc, que du bonheur.
Voilà, voilà, donc vous avez la réponse. Je sors du film Bac Nord. Ah, en parlant de Marseille.
Et il faut que j'aille le voir, ce film.
Et alors, qu'est-ce que t'en as pensé du film? Ah, il y a Charlotte qui connaît le spectacle.
Je pense que l'ensemble du réseau féministe des gens qui tirent les ficelles est allé voir ce
spectacle.
En fait.
J'avoue, moi quand j'ai débarqué dans la... La queue du spectacle avec mon mec, je tourne la tête et je vois qui?
Sandrine Rousseau.
Oh.
Et ouais, vous savez qui c'est? Vous savez, on l'avait reçu d'ailleurs sur Backseat. Vous souvenez?
La très très gentille dame.
Qui se présente à la primaire des écolos. Parlons-en de la primaire.
Est-ce que Laurence Yamas soutient Sandrine Rousseau? Écoutez, il faut lui demander. Mais moi, je ne serais pas étonnée que oui.
Ouais, logiquement. Voilà.
Parlons-en.
Ouais, parlons un peu. Vous savez qu'il y a une primaire des écolos, les gens? Parce que c'est important, ça. Team Rousseau. Ah, je crois qu'il y a des gens de la Team Rousseau dans le... sur le live. Alors, ces journées d'été, c'est vrai, tiens. D'abord, on va vite fait parler des primaires. Ensuite, je laisserai la parole à Raphaël pour qu'elle nous raconte un peu les journées d'été, pardon. Mais c'est assez intéressant. Ah, il y a un petit retour sur Bac Nord quand même. Le film est bien, mais on voit seulement le point de vue de la police, c'est bizarre. Ah, voilà. J'ai cru que t'allais dire, vous saviez qu'il y a Backseat qui revient. Mais bien sûr qu'il y a Backseat qui revient. Pas tout de suite, donnez-nous quelques jours et ça reviendra. Donc du coup, la primaire des écolos.
Tiens,
quand est-ce?
Page pour
ah,
toi.
Cool. Mais il est trop stylé, regardez. Il n'y a pas de parti pris.
Non.
Non, mais il n'y a pas de parti pris. C'est juste.
Non, il est trop cool. J'adore.
Parce que du coup, voter Sandrine Rousseau à la primaire des écolos.
Donc, qui se présente, Raphaël?
Alors,
à cette primaire. La date, pardon.
Alors, la date,
très important.
C'est en. Pour retenir, trois séquences.
Ok.
Vous avez jusqu'au 12 septembre pour vous inscrire. C'est 2 € pour vous inscrire si vous n'êtes pas membre d'un parti qui participe à l'organisation de la primaire.
En fait, on peut payer
si
en bitcoin
ou pas dans le cadre, donc je fais des choses bizarres, excusez-moi.
Est-ce qu'on peut payer en crypto?
Non.
Ah.
Non, tu payes.
Pas très moderne, les écolos.
Alors, en fait, non, parce que pour une raison très très simple, c'est que la primaire est très contrôlée à la fois par la CNIL et par la Commission nationale de contrôle des comptes de campagne.
Okay.
Donc, c'est un truc très officiel, très encadré. Donc,
tant mieux dans
pas
sens.
En crypto-monnaie. C'est 2 euros, c'est à partir de 16 ans, parce que chez les écologistes, on croit à l'émancipation dès le plus jeune âge et à la possibilité de choisir son destin, notamment politique. Et donc, vous avez jusqu'au 12 septembre pour vous inscrire. Et après, le vote, si je ne m'abuse, c'est du 16 au 19 pour le premier tour et ensuite du 25 au 28.
Ok.
Si je ne me trompe pas dans les dates exactement, mais comme il y a plein de gens de la Team Rousseau dans ce chat et que je sais que vous êtes particulièrement efficace, je vais vous laisser préciser. Et puis mettre peut-être l'URL du site de la primaire, et puis peut-être, si le cœur vous en dit, l'URL du site d'une certaine Sandrine quelque chose.
Quelque chose dans le genre. D'ailleurs, en parlant de Rousseau, j'ai lu beaucoup de critiques par rapport à sa gestion à Lille. Ah. Alors, eh ben, on peut en parler, hein.
Quelle gestion à Lille?
Bah, l'université, je suppose. Les cryptos, c'est pas écolo. Ah, ça, c'est un vrai sujet.
Exactement, parce que les crypto-monnaies, comme d'ailleurs le secteur informatique et la banque en général, sont pas du tout des secteurs régulés correctement. Et quand c'est pas bien régulé, bah, notamment sur la question de la consommation énergétique et de l'éco-responsabilité, ça a tendance à partir dans tous les sens.
Ah ouais. Mais les banques,
ah bah, les
classiques,
banques,
c'est pareil, non?
Ah, les banques classiques, c'est le secteur qui émet
le plus
de carbone. Le carbone,
pardon. Intéressant. Voici le lien de Sandrine. Ok. Donc, bon, bah, parlons de la primaire écolo. On a dit qui sont les candidats?
Ah, donc.
Tu rappelles?
Elle et ils sont au nombre de 5. Je vais essayer de le faire par ordre alphabétique. Je crois. Delphine Bateau,
Très bien.
Jean-Marc Governatori. Yannick Jadot.
Oui.
Éric Piolle. Et last but not least, Sandrine Rousseau.
Voilà, vous avez noté. Qui a prévu de participer à la primaire d'ailleurs, parmi les gens? Dans les années 70% des cryptos sont minés avec de l'énergie renouvelable. Ah, c'est intéressant ça. On apprend des choses ce soir. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien parce que.
J'aime bien les liens de ça. Tiens.
Ouais. Il y a quelques geekos dans le chat et c'est pas inutile, j'ai envie de dire. Alors, ah, ça, c'est les gens qui vont voter la primaire. Eh ben, il y en a quelques-uns, quelques-unes. Moi. Ok, cool, les gens. J'en mets. Et ok, bon bah faut suivre ça de près. Hein. Et puis bah toutes les infos, je suppose, sur lesécologistes.fr aussi pour vous inscrire. Est-ce qu'on y trouve les programmes sur ce site?
Alors, sur lesécologistes.fr, on va trouver la plateforme programmatique de la primaire et donc de l'alliance de partis du pôle écologiste.
Okay.
On va retrouver Europe Écologie Les Verts et Les Vertes, Génération, Urgence Écolo, etc., etc. Pour justement aussi prioriser le programme des écolos pour la présidentielle et à terme pour la législative aussi, histoire que cette élection soit vraiment partagée en fait et qu'on arrête d'être dépossédé en permanence de nos processus démocratiques.
C'est très bien dit. Bah oui, parce qu'il ne faut pas l'oublier, il y a la présidentielle, hein, tout le monde en parle, blablabla, mais après il y a la législative. Et ça, c'est très important aussi. Alors, bon, maintenant qu'on a un peu parlé de la primaire, est-ce qu'on passerait pas au... Alors, on nous voit de très très près.
Ouais.
Hein, on essaie de lire en fait. J'ai fait la bêtise de baisser à fond.
Les trucs qui coulent, les ports, c'est génial.
On nous voit 20%. Non. Bon, faudra regarder ces histoires de Bitcoin, énergie renouvelable, ça m'intéresse pas mal aussi. Entre pas de crypto-monnaie et des crypto-monnaies avec 70% d'énergie renouvelable, pas de crypto-monnaie et plus écolo. Certes.
Pas,
pas de monnaie du tout d'ailleurs, en l'occurrence. C'est assez intéressant.
Oui,
ça,
mais alors il faut qu'on puisse survivre économiquement au fait d'organiser une primaire. L'argent en politique, mine de rien, c'est un gros sujet.
Bah,
sinon,
c'est clair, c'est clair.
Ils sont déjà riches.
Ouais, et ça va... ils vont chercher des mallettes de thunes.
C'est ça, et ça va
chez
pas
Kadhafi.
Notre temps. Exactement, c'est inscription jusqu'au 12 septembre pour la primaire. Et tu vas peut-être voter Mélenchon malgré tout. Et en fait, moi, ce qui me désole dans cette phrase, c'est le malgré tout.
Bah oui.
Et l'objectif d'avoir une primaire dans l'écologie, et j'espère ensuite des discussions qui vont continuer entre la gauche et les écologistes, c'est de voter pour un candidat ou une candidate, non pas par... parce que c'est le seul choix
par dépit, ouais.
Par dépit, mais vraiment pour voter en calcul. En qui tu crois tout plein.
C'est marrant ce que tu as dit, parce que tu as dit la gauche et les écolos. Donc tu n'englobes pas les écolos dans la gauche?
Ah, ça c'est la grande question. Est-ce que l'écologie...
C'est un marqueur de gauche.
Et puis même, est-ce que c'est la gauche qui s'écologise? Est-ce que l'écologie
se
est
gauchise.
Intrinsèquement de gauche?
Ouais.
Moi, je le pense.
Aussi.
Je pense que le fondement de l'écologie est... et c'est très bien résumé dans un petit livre qui est très peu connu. C'est en fait le manifeste de création de ELV.
Okay.
Qui explicite très bien que l'écologie politique en France, telle qu'elle se structure autour de ELV, prend ses racines... dans l'histoire du mouvement ouvrier, dans l'histoire du mouvement féministe, dans l'histoire de la gauche, mais aussi dans l'histoire des coopératives, dans l'histoire du mouvement agricole indépendant, du mouvement paysan, en réalité,
etc. Bah ouais, c'est vrai, on pense à José Bové, tout ça aussi.
Un mouvement à part, que c'est pas juste un vernis qu'on va mettre sur la gauche.
Mm-hmm.
C'est pour ça que, de manière générale, dans le discours courant, j'ai tendance à dire l'écologie et la gauche et l'écologie.
C'est intéressant ça. C'est quoi le titre de ce livre, tu te souviens?
Je vais faire un truc, je vais tricher. Mais c'est un truc du style manifeste pour l'écologie.
Non, mais c'est super intéressant. Et le chat, vous pensez que les écolos, c'est des gauchistes ou pas?
Alors, on peut être de gauche sans être gauchiste.
Oui, je sais, mais j'aime bien faire le... Parce qu'on nous traite toujours de gauchos sur le chat, c'est pour ça. La gauche chose d'aime. En vrai, ça devrait pas être le sujet de tout le monde, l'écologie. Si, bien sûr que ça devrait être le sujet de tout le monde. Mais comme plein de choses, en fait. Comme le social, ça doit être le sujet de tout le monde. Comme la santé, ça doit être le sujet de tout le monde.
Le féminisme, ça devrait être le sujet de tout le monde.
Sauf que vous voyez bien qu'il y a des partis qui s'en saisissent plus que d'autres.
Et alors, le titre, c'est « Manifeste pour une société écologique ». Voilà.
L'écologie, pas gaucho, ça n'inspire pas confiance.
J'aime beaucoup l'expression qui dit « L'écologie sans justice sociale, c'est du jardinage ». Parce que ça résume bien quand même la question de... de l'écologie justement n'est pas qu'un environnementalisme,
c'est
aussi une lutte démocratique, c'est aussi une lutte sociale. Et en plus ça fait écho à un autre visuel slash slogan que vous connaissez peut-être, qui est un visuel qui avait été dessiné pour le collectif féministe contre le viol. Et en gros tu vois une nana posée sur une bêche et qui dit le viol c'est pas de l'amour, comme un coup de pelle c'est pas du jardinage.
Bah tu vois là je regardais un peu les réactions du chat et j'ai l'impression que le chat est quand même assez d'accord pour dire que en gros si t'es pas de. Enfin si t'es écolo et que t'es pas de gauche, t'es pas vraiment écolo. C'est ce que je.
Mais moi je vous avoue, j'ai du mal à voir comment on peut concilier l'urgence écologique, l'urgence démocratique, l'urgence sociale avec une société de consommation et une économie de marché telle qu'on la vit actuellement, quoi.
Ouais, c'est sûr, et puis toutes les mesures fiscales aussi.
Oh bah, la pente n'est pas bonne. Il faut
c'est
changer
clair,
de trajectoire urgemment.
Mais tiens, ça c'est des questions que vous êtes posées un peu aux journées d'été.
Ah bah ça c'est des questions qu'on se pose tous les jours.
Ouais. Intéressant.
C'est marrant, il y en a qui parlent déjà d'ailleurs.
Bah vas-y, réagis si tu veux en direct. Hein.
Est-ce que Jadot, la croissance verte, Delphine Bateau, elle parle de décroissance.
Ouais.
Sandrine Rousseau parle de changer de modèle économique et d'être dans une rupture. Radicale. Et donc oui, en effet, l'écologie, c'est avant tout l'intérêt de l'être vivant, mais en fait du vivant en général, et de, pour concilier tout ça, le dogme économique tel qu'on le vit actuellement, déjà ne fonctionne pas, hein, je pense qu'on se serait rendu compte si ça fonctionnait.
On commence à comprendre, ouais.
Et en fait, ce modèle capitaliste, c'est vraiment nourri de l'ensemble des dominations et de l'ensemble des violences qui ont servi à maintenir ces dominations, donc intrinsèquement. Ça ne peut pas fonctionner, ne serait-ce que parce que pour le perpétuer, il faut diminuer la part du gâteau accessible au plus grand nombre.
Ouais, c'est ça.
Et diminuer cette part de gâteau via la domination, via les stéréotypes, via la violence.
C'est pas méga inclusif, quoi.
Non,
non.
Ça n'a pas vocation à. Mais parce que le principe même d'accumulation des richesses ne peut pas marcher pour le plus grand nombre, n'est pas démocratique. Et même si ça pouvait marcher dans une utopie capitaliste bizarre, ça ne marcherait pas avec la finitude des ressources terrestres.
Oui, clairement. Est-ce que ça, tu penses que les gens sont prêts à l'entendre? Est-ce que c'est un discours que beaucoup n'ont pas forcément envie d'entendre? Il y en a plein qui sont prêts à faire des sacrifices, mais il y a des limites, tu vois. Genre, on est... Moi, je trouve qu'on a atteint un degré d'inégalité qui est tel aujourd'hui, enfin limite, je vais dire n'importe. Il faudrait presque contraindre les gens, en fait, à redescendre socialement, tu vois.
Mais en fait, ça...
C'est... Pour ceux qui sont vraiment genre
mais en
super
fait,
haut, quoi.
C'est tout le problème, c'est qu'aujourd'hui, la contrainte à... À la précarité, à la précarisation, elle existe déjà, mais elle s'exerce vers celles et ceux qui sont les 99%. Donc c'est aussi une question de la dynamique
d'inverser
de pouvoir.
Inverser les tendances, ouais.
C'est la dynamique de pouvoir et pourquoi le système tel qu'on le connaît perdure. Parce que la dynamique de pouvoir a intérêt à ce que ça reste ainsi. Est-ce que les gens sont prêts et prêtes à l'entendre? En fait, c'est un grand dilemme de la politique de manière récurrente. À savoir, est-ce que les personnalités politiques ont vocation à convaincre les gens ou est-ce qu'elles ont vocation à écouter ce que disent les gens et gérer ça plutôt comme un marché en mode je vais vous donner ce que vous attendez.
Ouais.
J'ai envie de dire, ni l'un ni l'autre et les deux à la fois, moi je pense profondément que la politique doit être une affaire d'émancipation. C'est-à-dire faire en sorte que chacun chacune a les outils nécessaires pour choisir par soi-même.
Ouais.
Et quand on est dans cette situation-là, je pense que les gens... déjà sont prêts et prêtes à entendre qu'il y a
urgence,
besoin de faire pas tant de sacrifices mais des ruptures dans la trajectoire telle qu'on la connaît aujourd'hui, mais parce qu'il n'y a rien de plus punitif que ce vers quoi on s'achemine. Quand on a vu les incendies, que ce soit en Australie, aux États-Unis, dans le sud de l'Europe, quand on voit la destruction massive de la biodiversité, quand on voit les pics de pollution qu'on connaît dans nos grandes villes, ça n'est pas possible de continuer ainsi.
Je regarde juste le chat, mais oui, ça c'est certain. Ouais. Alors, qu'est-ce qui nous dit le chat? On est toujours. Est-ce que c'est possible de rapprocher un peu le micro, Raphaël? Ah, oh, vous l'avez pas
on
entendu.
On va se coller. On va se.
Zut alors.
Et du coup, elle sera obligée de me réinviter. C'est que de la tactique. Comme ça, on vous cuisinera des trucs végé.
C'est clair. Tout le monde est prêt à faire des sacrifices, ouais. Bon, alors, et si on passait aux journées des écolos? Est-ce que c'était bien?
C'était bien.
C'était à Poitiers, pardon.
C'était à Poitiers, où on a une mère écolo. C'est quand même ultra chouette d'être accueillie par Léonore, mon conduit, dans sa ville.
Très cool.
à Poitiers. On était en plein air.
Il faisait beau, j'ai vu des photos, il faisait magnifiquement beau.
On a vraiment eu aussi une organisation extrêmement à la fois rigoureuse, fun, efficace. Enfin, moi, je suis toujours cool. Très impressionnée par la capacité d'organisation, des bénévoles extraordinaires, une équipe de LV qui fait des merveilles avec des bouts de ficelle. Et vraiment des jours de débat intense, de fêtes un peu intenses aussi. Voilà,
ah, parce que vous faites les teufs.
Ça arrive. Est-ce qu'on a fait une nuit blanche dans la nuit du samedi au dimanche? Écoutez, je ne vois pas de quoi vous parler.
Qu'est-ce que disent les gens? On a plein de mères écolo.
Toujours
salut.
Pas assez, on en veut plus.
Pardon. Et donc, du coup, ça a duré combien de temps?
2-3 jours.
Alors, ça dépend pour qui.
Ah.
Puisque avant les journées d'été des écologistes, il y avait pour pas mal d'élus des sessions de formation. Mmh. En tant qu'élu, c'est important de continuer à se former. Mmh. Il y a les bénévoles qui arrivent avant pour tout monter. Et encore une fois, merci à tous les bénévoles. Et ils repartent après pour tout ranger. Mais sinon, pour nous, c'était en gros du jeudi au dimanche. Voilà.
Ok, grand week-end.
Il y avait
des
jeunes écologistes, énorme big up aux jeunes écolos. Parce qu'eux ont fait les journées d'été des écologistes.
Et
après, ils ont enchaîné sur le forum des jeunes écolos pour encore 3 ou 4 jours de débat et de
teuf.
Franchement, il faut avoir des convictions.
Il y avait beaucoup de monde?
Ouais. Je crois qu'on était, je vais pas dire de bêtises, on avait dépassé les 3000, ça c'est certain.
Cool.
Je ne sais plus combien nous étions exactement. En tout cas, on n'avait jamais été autant. Et ce qui était impressionnant, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus s'inscrire le jour même, quoi. Directement.
Ah ouais,
place.
D'accord.
Moi, j'ai su qu'il y avait journée d'été des écolos, je débarque, ouais, je m'inscris à l'entrée, quoi. Voilà, j'ai vu la lumière.
Ouais, c'est ça, je suis rentrée. Classe.
T'arrives à lire?
En tout cas, à Tours, avec la mairie écolo LFI et Parti Socialiste aussi, n'oublions pas nos alliés socialistes, quel plaisir d'avoir une mairie plus proche de soi que des promoteurs immobiliers. Eh bien, écoute, je suis ravie de le lire et je ne manquerai pas de transmettre. Est-ce qu'il y a eu des temps de débat entre les candidats et candidates?
Alors, ah,
oui,
good point.
Oui, dans les travées, dans les cafés de Poitiers, tout ça. Mais sinon, il n'y avait pas de débat organisé à proprement parler avec les candidats et les candidates. Ça va démarrer dans les médias.
Ouais, j'ai vu un calendrier passer.
De faire connaître la primaire des écologistes. Donc, on a gardé la primeur des débats pour France Inter, puisque ça démarre ce week-end sur France Inter. Et là, il y avait ce qu'on appelait des cartes blanches. En fait, une heure pendant laquelle les candidats et les candidates nous parlaient et ou répondaient à nos questions. Et ces cartes blanches ont été filmées et vous pouvez les retrouver sur le site internet des écologistes, sur les réseaux sociaux. Enfin, n'hésitez pas, il y a eu des beaux moments.
C'est assez intéressant, effectivement. Ouais, ça vaut le coup de jeter un petit œil.
J'en dis pas plus, sinon je vais être pas du tout objective et je vous dire qu'il y a un discours fantastique d'une femme d'1m70 qui s'appelle Sandrine et ça finit par rouge quelque chose.
Pas de propagande. Non,
jamais.
Je déconne. Alors, autre sujet dont on voulait parler aujourd'hui, parce que ça a un peu fait la une de l'actualité, encore que peut-être pas assez. Il y a eu une série d'articles qui sont sortis dans Marianne notamment et Libé sur des agressions et du harcèlement au sein du Sénat. Je ne sais pas si les gens du chat ont vu ça passer. Et ce qui est assez dingue, concomitance de ouf, c'est que... juste pour la petite histoire, c'est au moment où j'étais moi en train d'écrire sur la question de la cellule anti-harcèlement de l'Assemblée nationale du Sénat, j'étais en plein dedans depuis hier, que ces articles tombent. En me disant, mais c'est quoi ce bordel? C'est quoi le fonctionnement de ces trucs? Incroyable. Alors, juste pour revenir sur le fonctionnement de la cellule anti-harcèlement au Sénat, en gros, vous avez un administrateur ou une administratrice qui est placée auprès du secrétaire général du Sénat, quelqu'un qui représente les collaboratrices et les collaborateurs. De mémoire, un psychologue, le psychologue ou la psychologue du Sénat. Et la personne qui représente aussi la médecine du travail au sein du Sénat. Donc ça, c'est la cellule anti-harcèlement. Donc en gros, si vous avez un souci, vous travaillez au Sénat, c'est eux qu'il faut saisir. Eux et elles. Donc, là, vous les saisissez. Ils voient si c'est sérieux ou pas. Si... il et elle considèrent que c'est sérieux, il et elle font remonter au président du Sénat, qui est le seul en mesure de décider si oui ou non il va convoquer la sénatrice ou le sénateur qui est mis en cause, si oui ou non il va proposer à ce qu'il y ait des sanctions qui soient appliquées de la part du bureau du Sénat, et si oui ou non, les cas seront déférés auprès du procureur de la République. Il faut savoir que l'article de Libé est assez intéressant à cet égard, parce qu'il parle quand même du fait que aucune plainte n'a été déférée au procureur de la République. Ça, en sachant que qui doit déférer les plaintes, en l'occurrence, Gérard Larcher. Par ailleurs, il semblerait que je crois qu'il y a une quarantaine de plaintes qui visent notamment Gérard Larcher.
Oh, c'est quand même très 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 étrange qu'il ne se soit pas transmis au Sénat.
Comment tu réagis face à ça, toi ?
Mal.
Ouais, mal. Super mal.
Mal. Alors, je sais pas si les gens m'entendent ou pas, en fait. Pardon. Alors, par contre, en fait, on va pas parler de femmes, même si elles sont accusées de harcèlement, en parlant de grosses tarées. Voilà. Merci d'éviter. C'est pas une raison. donc, je sais pas si vous m'entendez ou pas, mais...
Ouais, vas-y, tiens.
Vas-y, rapproche-le. Je le vis très mal, puisque déjà par empathie et compassion avec les victimes, et je sais à quel point c'est dur quand on n'est pas cru, quand on n'est pas écouté, quand on trouve pas les structures nécessaires pour être accompagné. Mal aussi parce que on peut s'épuiser autant qu'on veut à essayer non pas de faire de la politique autrement, mais de la politique correctement, en étant justement empathique et transparente. Bon, allez, hop, je pique son micro à l'air. Donc oui, à faire de la politique de manière transparente, en écoutant les gens, en respectant, en suivant ses propres valeurs humaines, en plus d'être politique. Et on se dit, mais à quoi bon s'épuiser si de toute façon, tous les autres, et en fait c'est pas tous les autres heureusement, mais autant de personnes dans des structures de pouvoir agissent ainsi, le fossé de confiance qu'il y a entre les citoyens, les citoyennes et les citoyens et les citoyennes qui exercent un mandat va être de plus en plus important, donc ça te met aussi face à une responsabilité qui est immense et pas de notre fait. Enfin, j'ai pas envie de rattraper 3000 ans d'histoire du patriarcat en politique à moi toute seule. Enfin, j'ai deux petits bras, c'est pas suffisant. Et puis enfin, il y a quand même quelque chose de l'ordre de la responsabilité légale, de la responsabilité pénale. J'ai envie de vous dire, même imaginons que je ne sois pas une femme écolo, je ne suis pas une femme féministe, je ne suis pas une femme de gauche, je suis juste la plus procédurière des républicaines qui existent. On a des outils pour se prémunir contre ce genre d'agression, de dérive. On a des lois, on a des règlements, on a un code du travail, on a un code pénal. Et puis, et parce qu'en fait, je suis une femme de gauche écologiste et féministe, on a aussi le travail de plaidoyer, d'accompagnement de centaines de militants et de militantes depuis des années, que ce soit des syndicalistes, que ce soit des assos féministes qui se sont battus pour faire reconnaître tout ça. Et il se passe rien. Enfin, il y a un moment, les gens ont découvert l'article 40 du code de procédure pénale. Je sais pas si vous vous souvenez de ce truc. Ouais. C'est ce qui fait que quand tu es élu, normalement, si tu as connaissance d'un crime ou d'un délit, tu as l'obligation de le reporter. Du coup, comment, en étant président du Sénat, tu ne peux pas reporter autant de plaintes qui ont lieu dans ton institution ? Et à quel point ça va construire l'impunité ? Parce que c'est extrêmement dur d'aller contre une personne qui a un ascendant contre toi, un ascendant moral, un ascendant économique, un ascendant lié à une relation de travail. Et en plus, cette personne est élue de la République avec toute la charge symbolique et effective que ça comporte.
Dans l'article de Libé, ce qui est aussi assez ouf, et c'est quand même quelque chose qui est très courant en politique, c'est l'omerta. L'omerta qui règne, c'est vraiment la loi du silence. Les collaboratrices et aussi parfois les collaborateurs parlementaires qui sont victimes de harcèlement n'osent pas en parler, parce qu'ils et elles sont certains et certaines de se faire griller, mais à vie. Là, en l'occurrence, il y a quand même le témoignage d'une collaboratrice dans l'article de Libération qui dit qu'elle a décidé de porter, donc de saisir cette cellule anti-harcèlement et qu'il a regretté parce que derrière, elle s'est faite virer, elle a été super malmenée par le sénateur avec qui elle travaillait et qu'elle a mis en cause. Et pour lui, il ne s'est rien passé.
Et ça, c'est le grand cliché sur... ça marche pour le harcèlement moral ou au travail, mais ça marche aussi pour les violences sexistes et sexuelles. Le grand cliché de « mais vous allez détruire sa carrière ». Le nombre de femmes qui perdent leur emploi
bien sûr,
parce qu'elles parlent pour une situation de harcèlement sexiste au travail est bien supérieur au nombre d'hommes qui sont punis en réalité.
Ça, c'est certain. On vous regarde le chat.
Oui.
On vous lit.
Rien n'est fait actuellement de concret.
pour lutter contre ça? Bah justement, je voulais te poser la question. Tu parlais tout à l'heure de formation des élus.
Ouais.
Ça, c'est un poids qui est super important. La Fondation Jean Jaurès qui a sorti une note il y a à peu près 2 ans, précisément sur cette question, et qui analysait les différents dispositifs qui sont mis en place au Parlement européen, à l'Assemblée nationale, qui est très récent par ailleurs, qui a été monté début 2020, et au Sénat. Le dispositif qui est en place au Sénat est depuis 2018, et le plus ancien finalement, c'est au Parlement européen. Il faut quand même savoir, juste petite précision, qu'en tout cas au sein de l'Assemblée nationale, je ne sais pas si c'est le cas au Sénat, mais je pense que c'est possible, l'inspection du travail n'a pas le droit d'aller. Quand même, imaginez déjà un peu le problème que ça crée. Bref, les problèmes que ça peut créer. Tout ça pour dire que dans ce rapport, les autrices mettaient en avant le fait que dans les 3 institutions qu'elles avaient donc auditionnées en quelque sorte, en tout cas analysées sur les dispositifs anti-harcèlement, elles mettaient en avant qu'il y avait un gros défaut de sensibilisation et de formation des élus notamment. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous prenez en compte chez ELV ? Formation au harcèlement, au sexisme.
Ça, c'est quelque chose qu'on fait à ELV, qui me tient à cœur, qu'on essaye de faire pour les militants, les militantes, notamment au fur et à mesure qu'elles et ils prennent des responsabilités dans le mouvement. C'est quelque chose qu'on veut faire aussi pour les élus, en essayant d'inclure ça dans nos chartes. En gros, qu'on signe quand on se présente sous l'étiquette ELV, on signe un truc disant que, par exemple, on va reverser une partie de notre indemnité au parti, qu'on va respecter les décisions démocratiques de ELV, etc., etc. Donc on veut inclure là-dessus, des obligations là-dessus. Et vraiment, là-dessus, on a eu des pionnières qui ont essayé de parler, d'exiger, de mettre en place des dispositifs, notamment après l'affaire Baupin. Et moi, j'aimerais dire qu'on a un problème également sur l'absence du statut d'élu en France. Il n'y a pas de statut d'élu. Donc, et il n'y a pas non plus de statut fixe de collaborateur et collaboratrice. Et c'est un énorme problème démocratique en réalité, parce que le fossé grandit, mais en réalité, la compréhension de ce que c'est que la vie concrète d'élu est extrêmement délicate à faire. C'est extrêmement compliqué à expliquer. On a finalement, à plein d'échelles, on a assez peu de moyens pour faire notre travail. Du coup, ça rajoute de la charge de travail pour les élus, ça en rajoute pour les rares collaborateurs et collaboratrices qui sont embauchés et qui font ça autant par conviction, voire souvent plus par conviction que pour la reconnaissance au travail que ça comporte. On n'a pas de mécanisme effectif de suspension lorsqu'il y a des accusations, que ce soit de harcèlement au travail ou de violence sexiste ou sexuelle. Enfin, moi, je pense qu'il est extrêmement important, si on veut progresser sur la transparence et sur des relations de travail correctes entre élus et élus, d'aller vers ce statut à la fois des élus et des collaborateurs et collaboratrices. Et après, moi, je t'avoue que du point de vue de la formation, moi, j'ai très, très envie aujourd'hui de faire un peu le lien entre mon expérience professionnelle dans le domaine de la formation et de la communication et de proposer, en fait, des formations au métier d'élu, non, et parce que par ailleurs, je continue de le découvrir, mais pour donner des bons réflexes, des bons réflexes, que ce soit des réflexes d'ordre éthique, légaux, et même un peu le côté petit manuel de survie pour femmes en politique.
Que Sandrine a écrit.
Que Sandrine Rousseau a écrit, et je ne l'ai même pas fait exprès, et qui a été préfacé par la géniale Claire Sercombe, qui était alors présidente d'Oser le féminisme.
Ouais, bonne question de la part de Deadly Boone, demande est-ce qu'il faut un statut d'élu, alors c'est pas vraiment considéré comme un métier.
Bah, d'autant plus en fait. Je crois d'autant plus que si c'est pas un métier, il faut un statut. Parce que là, il y a des choses. Il y a plein de petits dispositifs qui traînent dans des codes différents, sur des dispositions différentes. Moi, j'ai toujours pas réussi à cotiser à ma caisse de retraite en tant qu'élu, hein, parce que c'est un foutoir monstre. Sur la formation, on a des dispositifs différents. Sur les déclarations d'intérêt, de patrimoine, de déontologie, il y a des choses différentes.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Différente et la législation est mouvante. Enfin, je pense vraiment qu'on aurait tout à gagner à encadrer ça, à codifier ça tout au même endroit pour que ça soit plus compréhensible pour les élus, que ça soit plus compréhensible pour les personnes qui se disent qu'elles ont peut-être envie de faire de la politique, en fait. Que ça soit vraiment accessible. Parce que franchement, moi, je n'avais pas... Et pourtant, j'étais dans un métier, dans des réseaux politiques et militants qui étaient quand même plutôt au fait de ce genre de choses. Mais moi, je découvre des trucs, mais tous les jours, quoi.
Pour revenir un peu sur ce qui se passe là au Sénat, enfin, ce qui a été dénoncé par rapport au Sénat, etc. Moi, ce que j'ai remarqué, depuis longtemps d'ailleurs, c'est qu'il n'y a pas vraiment eu de vague MeToo au sein du monde politique. Est-ce que tu penses que là, ça peut ou peut-être créer quelque chose?
J'espère tous les jours de ma vie. C'est terrible de se dire qu'en fait, il y a eu l'affaire Baupin, qui est antérieure au mouvement MeToo. Et que... Je vais essayer de dire des choses de manière à ne pas pouvoir être attaquée en diffamation. À côté de ça, on a eu Christophe Girard, qui était adjoint à la culture à la ville de Paris. On a Gérald Darmanin, qui est ministre de l'Intérieur. On a Pierre Jox, qui était invité et qui visiblement a été désinvité des universités d'été de la France Insoumise pour parler sécurité. On a Nicolas Hulot, qui est encore testé comme étant une personnalité politique ultra populaire. C'est un problème parce qu'il y a l'absence de prise de conscience, l'absence de mobilisation, toujours un double standard en termes d'impunité. Tu pourras toujours te présenter plus facilement et avoir une vie publique si même tu as reconnu d'avoir frappé ta compagne, un certain Thomas Piketty, que si tu avais essayé de braquer une épicerie pour voler du fromage. Vraiment, on a un gros problème, et d'autant plus un problème que pour les femmes, que ce soit les féministes, les politiques ou celles qui essayent de faire les deux, bandes de petites masochistes, je vous reconnais, ça nous fait un travail politique supplémentaire en permanence. Moi, j'adorerais ne plus avoir à parler violences sexistes et sexuelles. En fait, mes dossiers au sein du Conseil de Paris et au sein de la mairie de Paris Centre, c'est éducation, enseignement supérieur, petite enfance, sécurité, végétalisation, citoyenneté, éco-responsabilité. Il n'y a pas violence sexiste et sexuelle dans aucun de mes intitulés, dans aucune de mes commissions. Enfin, si maintenant il y a aussi égalité et lutte contre la violence sexiste et sexuelle dans une de mes commissions, et d'ailleurs j'en suis ravie, hein, soyons bien clairs, mais le temps et l'énergie que je passe chaque jour et chaque semaine à recueillir des témoignages, y compris quand moi je suis au plus bas et où en fait j'ai envie qu'on parle de tout sauf de violence sexiste et sexuelle, le temps que je passe à accompagner des personnes, et encore une fois je le fais parce que c'est extrêmement important, le temps que je passe à faire de la pédagogie féministe, le temps que j'ai passé cette semaine à dire que oui, les sorcières sont une figure écoféministe traditionnelle alors qu'il y a des gens qui le découvrent, j'ai l'impression que c'est du temps que je pourrais consacrer à autre chose, quoi. Et ce trou béant entre notre conscience, notre expertise féministe et le niveau général du débat public et la conscience politique à ce sujet, c'est vraiment quelque chose de douloureux, quoi, parce qu'à chaque fois, tu as envie de te dire, ok, j'ai envie de faire autre chose, moi, c'est bon, j'ai bien baigné dedans.
Est-ce que tu penses que ça vient pas d'un défaut de connaissance, en fait, d'une certaine forme d'ignorance?
Bien sûr, c'est de l'ignorance, mais c'est de l'ignorance liée à quoi? Liée au manque de moyens des assos, liée au fait que l'impunité est toujours la règle.
Au fait que les pouvoirs publics ne font rien, pareil.
Pas grand-chose. Par exemple, Irène Montero était dans une interview croisée, c'est Alice Coffin qui le rappelait, avec son homologue française. Et elle disait, mais en Espagne, jamais Gérald Darmanin ne pourrait être ministre de l'Intérieur. Le gouverneur de New York a été poussé à la démission par l'ensemble des États-Unis d'Amérique, ou presque. Et nous, ça se passe dans le plus grand des calmes. Moi, je vous invite à aller... Je vous invite à aller revoir la manif et les manifs qui ont eu lieu lors du remaniement gouvernemental quand Gérald Darmanin est devenu ministre de l'Intérieur, ce qui par ailleurs était une promotion, hein. C'est pas qu'il est rentré au gouvernement, il était déjà au gouvernement, ça ne posait pas problème, et il a été promu. Indépendance de la justice, des enquêtes, sérénité du travail de police. Voilà. Et il y avait eu une manifestation monstre devant l'hôtel de ville. Et moi, j'avais pris des vidéos, j'avais pris des photos, et en fait, pendant la manif, je m'étais dit, mais en fait, moi, ça y est, je suis élue. Alors, j'ai le droit de monter à l'hôtel de ville et de prendre la photo vue d'en haut. Et là, dans ce moment-là, je m'étais dit, ok, maintenant, je suis au bon endroit pour faire la bonne chose. Quand je vois la masse de travail, et puis avoir des soutiens aussi dans le monde institutionnel, et vraiment être partout, c'est le côté, si on ne nous laisse pas rentrer par la porte, il faut rentrer par la fenêtre, quoi, mais... Là, vraiment, il y a besoin qu'on soit encore plus unis, encore plus forts et fortes, de se soutenir beaucoup mutuellement. Enfin, vraiment, les trolls seront toujours mille fois plus vocaux que nous, quoi. Et ça, c'est assez usant au quotidien. Donc, on a besoin d'aide, là, vraiment.
Là, on va prendre les questions. Hop, attends, regarde. J'ai une question. Un homme condamné pour agression sexuelle peut-être condamné comment et après on en fait quoi? C'est vrai ça, tiens, c'est quand même une bonne question. Genre, quelqu'un qui est condamné pour agression sexuelle, est-ce qu'on considère qu'il peut plus être ministre, qu'il peut plus être élu? Qu'est-ce qu'on fait?
Mais c'est marrant ça, parce que vraiment, moi j'ai jamais eu cette question pour un braquage à main armée, qui est un crime aussi, moins sévèrement puni d'ailleurs. Et bien, en fait, c'est une question morale et politique. Est-ce que tu as envie d'avoir un représentant qui est loin de ce que j'espère être nos standards éthiques, est capable de faire ça? Bien sûr, il y a le droit à la réinsertion, mais en fait, être élu notamment, c'est pas un droit. Militer, c'est pas un droit. Si bien sûr, c'est une liberté publique, mais on n'a pas d'obligation à donner notre confiance à quelqu'un. La responsabilité du suffrage universel, je ne sais pas vous décrire à quel point c'est vertigineux. Il y a des gens qui ont voté pour nous dire « on attend de toi que tu nous représentes et que tu fasses ceci et cela ». Et donc, qu'est-ce qu'on en fait? Bah oui, il a le droit à la réinsertion, mais la réinsertion, ça marche déjà pour la peine. Et donc, il y a extrêmement peu de peines qui sont effectives en France, avec un travail de réinsertion, un accompagnement, enfin, plein de choses où là, on en est quand même à la... On est à moins 1000 et vous me demandez à plus 3000, qu'est-ce qu'on fait après pour la réinsertion? Mais déjà, pour réinsérer quelqu'un, il faut admettre la faute et faire la punition. C'est ce qu'on apprend aux tout petits enfants dans l'éducation. Donc, les choses dans l'ordre.
Petit chardonnay, je crois que c'est ça, ouais, qui nous a servi.
Alors ça, c'est une vraie question sur le casier judiciaire vierge, notamment sur les délits. Moi, je suis plutôt partisane du casier judiciaire vierge, mais j'ai quelques expériences qui font que je me pose la question. Par exemple, pour des actions militantes. Moi, j'ai déjà eu une plainte qui risque d'être jugée prochainement parce que j'ai affiché des portraits de Marie Trintignant à proximité de concerts de Bertrand Cantat. Et donc une plainte pour dégradation, parce que j'ai affiché des grands portraits de Marie Trintignant. Pour des personnes qui ont fait, par exemple, les personnes qui fauchaient les plantations OGM. Ou par exemple, si t'es... Voilà, ou si par exemple, t'es attaqué en diffamation par certaines personnes qui n'apprécient pas que... Enfin, c'est une vraie question, du coup, que je suis en train de réévaluer. Mais est-ce que, par exemple, on pourrait se dire que pour les crimes violents, bah non, peut-être pas, quoi.
Mais déjà, il y a une différence entre le délit et le crime.
Bien sûr. Bien sûr.
Par rapport à une infraction, mais...
À la gravité, oui.
On pourrait se poser la question que... On pourrait partir du principe que c'est quelque chose qui ne porte pas à l'atteinte physique de quelqu'un, ou à l'atteinte morale, ou à psychique.
Oui.
Par exemple, je sais pas, quelqu'un qui fume des joints et qui se fait gueuler avec 10 grammes de shit, bon...
Et après, quelqu'un disait l'exercice, c'est ça. Et quelqu'un disait pendant le mandat, ben, je pense que ça pose très sérieusement la question de l'irréprochabilité, du statut de l'élu, genre de pouvoir se mettre en retrait de son statut d'élu le temps du procès. Parce que les mises en retrait d'élus qui disent « Oh là là, j'ai été accusé, je vais me mettre en retrait », enfin, soyons clairs, ça veut juste dire qu'ils vont arrêter de tweeter pendant 2 mois. Après, ils vont reprendre. Ou alors ils vont revenir de ci, de là, ou alors par exemple ils ne vont pas se pointer en Conseil de Paris, mais ils vont venir signer pour toucher leur indemnité. Par exemple, comme deux hommes dont je ne citerai pas le nom et qui ont décidé de se mettre en retrait. Ça n'est pas satisfaisant, donc ça pose la question du statut, de la possibilité d'une mise en retrait, le temps d'une procédure par exemple pour pouvoir mener ton mandat sereinement aussi, parce que sinon ça impacte tout le monde. Et ça pose la question de la révocabilité, en fait. Est-ce qu'il y a un moment où on se dit les élus sont révocables et sur quels critères et avec quelle légitimité pour une révocation? À partir de qu'est-ce qu'il faut pour révoquer un élu? Quand on sait que Georges Tron, pour le révoquer, c'est...
oui, pas genre on est élu, on fait les conseils municipaux depuis la prison. Par exemple, moi je suis pas certaine que depuis la prison, tu sois à même d'être responsable pour ta commune de l'ordre public. Ça m'interroge. C'est quand même un degré d'absurdité éthique et politique, mais qui est délirant. Enfin, on est sur un truc...
Vous avez d'autres questions, les gens ? On se rapproche parce que j'ai fait la bêtise de mettre la lumière de l'écran très basse. Du coup, on voit rien, en fait, de ce que vous écrivez. On est là... Quelle heure est-il ? C'est plutôt qu'on voit que tu tardes.
19h23.
Ça va ? J'ai encore un peu de temps ou pas ?
Bah écoutez, si je suis en retard et qu'on n'a rien à manger avec mon mec ce soir, ce sera de votre faute.
Tu lui diras. On l'embrasse.
Il a dit, profite de ton Twitch, si on finit par commander des pizzas, ça ira. Après, ça donne un pouvoir au juge de décider qu'il peut se présenter ou non. Bah, oui et non. En fait, il y a déjà un truc qui s'appelle l'inéligibilité. Donc en fait, ça fait partie des sanctions plausibles en République. Et après, il y a autre chose. Et là-dessus, c'est pour ça que je pense qu'il faut tenir les deux bouts. Mais c'est, encore une fois, enfin moi je vous dis, c'est le truc qui m'émeut et qui me rend dingue et qui me fait peur, c'est le suffrage universel. À quel moment dans ce pays on vote pour des gens qui ont été condamnés ? Interrogeons-nous aussi, parlons-en. Faisons la transparence, faisons l'information, faisons l'émancipation citoyenne et l'exigence en politique. As-tu des critiques à faire contre Rousseau ? Le philosophe ? Des critiques à faire contre Sandrine Rousseau. Franchement, je peux essayer par pure honnêteté intellectuelle. Je ne suis pas tenue à l'objectivité.
Non.
J'ai des convictions, heureusement. Des critiques à faire à Sandrine. Je vous jure que je cherche, mais du coup...
Tiens, il y a une question là.
Ah, alors...
Tiens, tu peux peut-être préciser un peu
ouais.
Ça, ouais.
Alors, et sur la boulette de Sandrine Rousseau, sur « Vaut mieux avoir les potentiels Afghans dangereux sur le territoire... » Ah, c'est reparti. Sur la boulette de Sandrine Rousseau, sur « Vaut mieux avoir les potentiels Afghans dangereux sur le territoire pour les surveiller de plus près. » Alors. Sandrine a elle-même dit que l'expression était maladroite. Mais franchement, moi j'ai très envie de prendre du temps pour écrire ou parler là-dessus, ou je ne sais pas comment, parce qu'en fait ça fait partie des petites idées dans la tête, que vos post-it mentaux de « tiens, un de ces quatre, j'aimerais prendre du temps pour parler de ça ». Moi je pense qu'en fait, on ne peut plus, dans le monde tel qu'on le vit aujourd'hui, penser la barbarie, les barbares. Le fait de dire « il y a nous, il y a notre civilisation », et il y a les barbares. Déjà parce que la mondialisation, les gars. Ensuite, parce qu'on voit bien que les actions terroristes sont financées, perpétrées, sont financées, organisées, puis perpétrées parfois à des milliers de kilomètres, l'un d'un point de l'autre. Donc, je ne pense pas qu'on puisse se dire... Un pays tombe, on sait que... Et en fait, c'est extrêmement utilitariste en plus, hein, comme vision. Là, je suis sur une vision utilitariste sécuritaire qui a elle-même ses défauts. Mais on ne peut pas se dire, pour assurer notre sécurité, on va les laisser là-bas. Et en fait, moi, pour moi, ça fait beaucoup écho à la situation sur le débat sur les enfants, les femmes et le retour des djihadistes syriens. Vraiment, je ne crois plus que notre humanité puisse se définir comme un empire contre lequel se trouvent des barbares. Et donc, je suis pour le fait d'avoir vraiment de l'accueil inconditionnel des Afghans et Afghanes. Enfin, inconditionnel, ok, d'accord, on va pas accueillir le chef des talibans en France, on est bien d'accord.
Et là, les services mais, de
taf
aussi.
Et puis, enfin, et puis, en fait, les services de sécurité régulière. Mais je pense que c'est important qu'on consacre le droit de fuite, au-delà, encore une fois, de cette logique de sécurité que je vous exposais préalablement. Le droit de fuite, c'est ça aussi qui fonde notre humanité. Et vraiment, moi, j'aimerais qu'on prenne ce temps-là à réfléchir à finalement qui on accueille, pourquoi on accueille ou pas. Qu'est-ce qui peut nous fonder à juger, à préjuger les êtres humains entre eux ? Moi, c'est un des tweets que j'avais fait, l'un des trucs où j'étais un peu choquée. Et pourtant, c'était... En fait, non, j'étais très choquée. Et pourtant, c'était vraiment de bonne foi de la part d'énormément de gens. Et vous savez, cette démultiplication de « il faut accueillir les journalistes afghans et afghanes, il faut accueillir les femmes afghanes, il faut accueillir les LGBT afghans et afghanes, il faut... » Mais en fait, du coup, on va chacun, chacune, les artistes, on va chacun, chacune définir quelle est notre priorité d'accueil, ou alors on va se rappeler que l'humanité commune ne sera commune que si on consacre également ce droit de fuite. Ah, moi en fait, ce qui m'a le plus gêné, c'est que ça concédait l'idée de la dangerosité des migrants. Oui, enfin, Sandrine Rousseau, comme n'importe laquelle d'entre nous, vit dans un truc qu'on appelle le débat public. Et en effet, en ce moment, vous aurez remarqué qu'il a une tendance un peu sécuritaire, mais pas dans le bon sens du terme. Et d'ailleurs, moi, ça fait partie des sujets que j'adorerais développer plus. C'est une vraie idéologie écologiste et de gauche et féministe sur la sécurité. Mais quand tu dois repartir de la base de... ce sont pas les migrants qui violent nos femmes. Je vous assure que j'ai déjà eu à décrypter ce genre de phrase beaucoup plus souvent que je ne l'aurais souhaité. Ben, on est obligé de prendre les choses un peu telles qu'elles viennent. Alors, le regroupement des écoles et universités lilloises qui favorise la libération de l'enseignement, le prix de l'inscription et la fin de la compensation alors que 85% des étudiants et étudiantes étaient contre, ça ne fait pas très très social de la part de Rousseau aussi. Alors là-dessus, c'est sur le statut de l'Université de Lille. Alors très honnêtement, c'est un sujet que je n'ai pas suivi dans le détail. Moi-même, j'ai travaillé dans l'enseignement supérieur et la recherche. Et je suis pour la réunification de l'enseignement supérieur et de la recherche, notamment la fin de la distinction école, prépa, université, la fin de la sélection à l'université et une péréquation en fonction des moyens et non pas des résultats aux appels à projets. Le problème, c'est que quand tu exerces dans l'enseignement supérieur et la recherche, c'est un peu comme dans le monde médiatique, tout est tellement pas axé sur notre manière de penser, de réfléchir et de souhaiter et de militer pour faire autrement, que ouais, parfois tu fais des trucs que t'aimerais bien ne pas avoir à faire, du style comment tu fais pour organiser Parcoursup dans ton université pour pas foutre tout le monde sur le carreau, alors que t'as qu'une seule envie, c'est d'être en grève pour refuser la sélection à l'entrée de l'université. Donc si on veut vraiment un enseignement supérieur et une recherche plus sociale, plus ouverte, plus juste, financée en fonction des besoins sur l'ensemble du territoire qui permettent l'émancipation, bah ouais, faut voter pour des femmes écologistes et de gauche. Et concernant les romans policiers, c'est une très bonne remarque. Peut-être que ma principale critique vis-à-vis de Sandrine, c'est qu'elle ne m'a jamais envoyé ses romans policiers. Voilà, vous savez tout.
Ah, je reconnais ce cœur. C'est bon. Pourquoi il y a plus de femmes de l'université ? Ah, pas plus ? Ah, bah ça, parce qu'il n'y a pas plus de femmes de partout, mes chers amis.
Alors en plus, à l'université, il y a une vraie inversion de la pyramide. C'est-à-dire qu'on a plus d'étudiantes en licence, on a plus d'étudiantes en master. En doctorat, ça commence à s'inverser. Oui, là, je te parle sur la moyenne très générale, même si, bien sûr, c'est très sexué, les filières. Donc, plus d'étudiantes en licence, en master. En doctorat, ça commence à s'inverser. En enseignant et enseignante, ça commence à s'inverser. Plus tu montes, professeur et tout. Et là, on doit être à 15% de présidents et présidentes d'université. Et encore, pendant longtemps, on était à 2 ou 4%. On reconnaît bien une bonne personnalité politique, ça me donne presque envie de voter Rousseau. Eh bien, on va continuer à discuter ensemble. Mais je te remercie pour le compliment. Sur les étudiantes voilées à l'Université de Lille, ça ne me dit strictement rien. Mais vraiment, n'hésitez pas à me reposer la question plus tard. Je suis contre l'interdiction du voile à l'université. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Quelle place pour le numérique et l'innovation participative démocratique dans le monde en général? Mais c'est un peu vaste comme question. Ouais, c'est ça. Une opinion de l'invité sur Delphine Bateau et une vision plus clairement effondrement de la situation climat-économique. Alors, je suis pas d'accord exactement avec ta présentation de la question. Je ne pense pas que la vision de Delphine soit plus claire sur l'effondrement de la situation climat-économique. Je pense que Delphine, elle présente l'effondrement, mais que quelque part dans son logiciel politique, il n'y a pas de volonté initiale de rupture avec le capitalisme. Et pour moi, c'est la grande différence avec Sandrine. Et je vous avoue que moi, j'ai été extrêmement déçue de l'entrée en campagne de Delphine, qui se réclame de l'écoféminisme. Alors ça, je trouve ça très bien. Mais avec le côté l'écologie 100% laïque et républicaine, j'ai envie de dire, mais en fait, la laïcité, c'est un principe, c'est un mode de fonctionnement. La République, c'est le système politique dans lequel nous vivons. Donc je vois pas trop ce que serait une écologie non républicaine ou non laïque. Enfin, vraiment, on n'est pas pour une écologie de la monarchie constitutionnelle. Enfin, donc ça, j'ai été très déçue. Piolle qui envoie les flics contre les femmes qui voulaient porter le burkini, c'est chaud un peu. Alors ça, c'est la grande question des piscines à Grenoble. Je vous avoue que pareil, j'ai vu plein de choses passer à ce sujet que je n'ai pas suivi dans l'absolu détail. Mais c'est une question sur laquelle Eric est très régulièrement interpellé et j'espère qu'il aura l'occasion d'expliciter ce qu'il en est. Sachant qu'en plus, je trouve néanmoins important de dire qu'en tant que maire, même quand tu as une police municipale, et en tant qu'écologiste, je suis contre la police municipale, tu es vraiment parfois entre l'enclume et le marteau, sur les politiques sécuritaires, la pression du gouvernement, la pression du ministre de l'Intérieur, qui est toujours Gérald Darmanin, et c'est toujours un problème. Et t'es pas en maîtrise totale non plus de ces politiques-là. Et je sais qu'il y a au moins la question de... Il y avait eu une passe d'armes, sans mauvais jeu de mots, entre Gérald Darmanin et Éric Piolle sur la question des moyens et de la sécurité à Grenoble. Et j'avais trouvé que ça montrait bien la tension qu'on peut retrouver dans ces moments-là. Alors, pourquoi être contre la police municipale ? Bon, ça c'est long quand même. Vraiment, j'ai fait pas mal d'interventions là-dessus au cours de ces derniers mois. Donc je vais vous inviter quand même à aller regarder les interventions, c'est peut-être encore plus simple. Et peut-être que faudrait que je reprenne l'intervention et que je la publie sur mon blog Mediapart. En gros, pourquoi contre la police municipale, il y a trois arguments principaux. Déjà, la confusion des missions. Ensuite, l'encouragement de l'austérité de l'État. Et enfin, la conception même de ce qu'est la police. Pour moi, la police, c'est une idée à la base profondément de gauche, puisque c'est confier un espace à un groupe encadré de manière démocratique et formalisée l'exercice du monopole de la violence légitime de l'État. Ça paraît technique dit comme ça, réécouter la phrase au ralenti, tout va bien. C'est en gros, tout le monde ne peut pas exercer la violence contre ses voisins pour faire régner l'ordre. C'est un groupe spécifique qui est formé pour ça. Et même du point de vue tactique, même du point de vue de l'armement, même du point de vue du contrôle, tout ça, ça a été mis à mal par des décennies de logique sécuritaire, par des décennies de logique austéritaire. Et du coup, il y a la tentation de vouloir réparer ça à notre échelle, notamment en tant que collectivité territoriale, en se disant « mais tenez, on va faire une police municipale, nous, ça va être vachement mieux ». Je pense que c'est une vraie fausse bonne idée. Et qu'en plus, la confusion des missions, ça va être extrêmement compliqué à la fois pour les personnes sur le terrain, les policiers, les policières, à la fois pour les pouvoirs publics et même pour les victimes. Par exemple, une des grosses bêtises de Marlène Schiappa, à un moment, pendant le confinement, c'était de dire « si vous êtes en danger, appelez le 3919 ». Non, si tu es en danger immédiat en tant que femme, si ton mec essaye de tuer, tu appelles le 17, tu appelles les flics. Et bien ça, typiquement, c'est de la confusion de compétences. Et je trouve extrêmement compliqué de faire de la confusion entre les missions. Il faut le retour de la garde républicaine de 1870. Et bien, promis, on en a parlé aujourd'hui sur Twitter avec Mathilde Larère. Et franchement, on en discute. À cab ou pas à cab, je ne peux pas répondre à cette question, chers amis. Parce que je suis petite fille de gendarme, je suis fille de CRS. Et néanmoins, j'ai envie de vous dire à cab, parce que théorie politique, théorie éthique militante et compréhension de ce que c'est qu'un slogan, et qu'un slogan n'a pas à être diabolisé. Enfin, j'ai envie de vous dire à cab d'un côté, not all men de l'autre. Je ne vais pas vous défendre pas à cab alors que je dis que le not all men, c'est n'importe quoi. Et néanmoins, j'aimerais bien qu'on puisse le faire sans l'insulte qui va avec, parce que par ailleurs, bâtard, c'est pas censé être une insulte. Ah, quel est votre avis sur les civitech et l'innovation démocratique grâce au numérique ? J'adore ce sujet. Mais on va rester là des heures. Hein. Franchement, les gars, c'est vous qui allez commander les pizzas. Hein. Je vais faire une cagnotte. Donc.
Déjà, tu sais que là, c'est une
civitech. Bah, non, je trouve pas. Et donc, je vais expliquer pourquoi.
Ah bon ? Attends, bah, les jouets de podcast, c'est la civitech.
Non, mais alors, je vais pas te retirer ton étiquette civitech et ta considération si tu veux que ça soit une civitech. Mais en fait, moi, je considère qu'il n'y a pas de déterminisme technologique. Je pense pas que ça soit l'outil qui fasse l'usage. Je pense qu'il y a bien sûr des choses par rapport aux possibilités de l'outil, par rapport au modèle économique, par rapport à la concentration capitalistique de l'outil. Mais je pense qu'en gros, vous mettez n'importe qui à côté de Léa qui a décidé de vous mentir et de vous raconter des bobards, bah, ça ne fera pas de la transparence démocratique. Alors, ce n'est pas ce que j'essaye de faire, hein, mais...
Alors, il y a plusieurs types de civic tech. Hein. Il n'y a pas que la transparence démocratique.
Non, mais bien sûr, mais...
Après, c'est
notamment
vrai,
vis-à-vis de ça.
Dans cette démarche-là, effectivement.
Mais en fait, pour moi, l'outil va être ce que t'en fais.
Oui,
et c'est extrêmement important. Mais ouais. C'est un outil. C'est comme si je vous disais, est-ce qu'on révolutionne la pensée par l'invention du papier et de l'imprimerie? Oui et non.
On peut la diffuser.
Et donc la diffusion change l'échelle. Et donc le changement d'échelle change. Donc c'est extrêmement intéressant. Il y a plein de choses à faire. Mais je ne pense pas que ça soit une solution.
Tu ne penses pas que ça révolutionne
par essence
la démocratie et le fonctionnement démocratique, en fait?
Pas forcément. Parce que notamment, parce que l'usage de l'outil peut être très intéressant comme il peut être très dangereux.
Absolument.
Donc je ne pense pas qu'il y a des solutions.
Excellent point, pardon, je t'interromps, mais juste pour un petit exemple. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand il y a eu le Conseil économique, social et environnemental qui avait mis en place un système de pétition et aussi un système délibératif sur lequel les gens pouvaient un peu faire part de leurs doléances et ensuite les personnes devaient voter. C'était pendant la crise des Gilets jaunes et en fait cet outil-là, très bon exemple, a été hacké par la Manif pour tous. Pour mettre en pole position le fait de revenir sur le mariage homosexuel, par exemple. Oui, c'est vrai.
Voilà, je ne pense pas qu'il y ait d'essentialisation possible et je ne pense pas que l'outil va devenir ce qu'on en fait.
Oui, l'outil devient ce qu'on en fait. Après, c'est vrai que ça permet quand même de créer des choses assez ouf, quoi.
Oui, absolument.
Je pense que sur les 100% des trucs qui se créent, il y a peut-être 70% de trucs cool et 30% de trucs d'accord.
Envoie ton adresse, on organise la livraison pour les pizzas. Ouais, alors je vous avoue qu'en effet, vu le nombre de menaces et d'insultes que je reçois à la mairie, mais aussi à mon domicile, alors que mon adresse privée est censée être privée, ouais, on va faire autrement pour la livraison de pizza. N'hésitez pas à livrer des bons pour pizza à l'hôtel de ville, voilà, place de l'hôtel de ville à Paris 4e arrondissement, ce sera trop cool.
Et en tout cas, merci pour l'attention.
Et je devrais le signaler au déontologue, ça va bien passer. Oui, le vote par internet n'est pas une bonne idée.
Pourquoi?
La personne ne détaille pas. Pour le reste, moi je suis plutôt contre le vote par internet aussi.
À vélo.
Bah, ça, c'est. Il n'y a pas grand chose qui est écolo hein, dans notre mode de consommation actuel. Mais sinon, on fait autre chose. La prochaine fois, on se fait ça en live. Je fais de la pizza et je ramène les éco-box dans lesquelles il y a des parts de pizza. Et ce sera une livraison absolument écolo.
La dernière fois, on avait fait une pizza vegan. Vous vous souvenez? Avec le chat.
C'est vrai?
Qui m'entendent, ouais. T'inquiète. On avait mis du fromage vegan. Du fromage. C'était pas mal.
Demande de live cuisine politique. Mais en fait, c'est ça. À la base, moi, je rêve de faire
ça. Ouais, normalement, on devait faire ça, mais c'est de ma faute, en fait. C'est de ma faute, les gens. J'avais trop envie de sortir de chez moi.
Tu as le droit.
De voir des gens, en vrai. Profiter un peu de ce rayon de soleil à Paris, qui est quand même fabuleux.
Alors, une recette pompette politique.
Ah ouais.
Alors, franchement.
On y est.
Franchement, moi je suis ultra partante. C'est pas du tout loi et vin, protection, machin, tout ça. Faut pas faire ça chez vous, faut pas faire ça chez les mineurs, tout ça, tout ça.
Mais pour le moment, on s'en fout sur Twitch, on peut.
Non, mais c'est pas qu'une question de s'en foutre parce que légalement on a le droit. C'est le côté éthique quand même. J'encourage pas à la consommation d'alcool. Quoi.
Non, enfin, bien sûr, mais comme on n'encourage pas à parler de politique.
Bah si, au contraire, pour le coup. Mais j'avoue. J'avoue, une recette, je sais pas.
Non, l'objectif c'est qu'effectivement on fasse des recettes véganes et végétariennes. Mais il faut que je trouve un setup qui tienne un peu la route. Là pour le moment c'est dans ma cuisine, c'est pas l'idéal.
C'est ultra relou à filmer hein, des recettes.
Ouais.
C'est compliqué à filmer, franchement.
Il faut un peu de matos quoi. J'ai pas eu le temps de m'en occuper à vrai dire.
Est-ce que tous les hommes politiques sont alcooliques? Eh bien il faut poser la question aux hommes politiques.
Voilà, pas les femmes.
des faritas végétariennes, miam. Et ben, je te jure que moi, je pensais au tech paf et du coup, j'étais partie sur la cuisine mexicaine aussi, mais
on va
réfléchir à des trucs.
Hein, qu'est-ce que t'en penses ? On organisera ça.
J'ai l'impression que vous buvez trop, les hommes politiques en général, nous là maintenant tout de suite, mais de façon générale, pour parler très très sérieusement.
Je sais pas toi, moi j'ai pas bu depuis mon dernier verre, c'était vendredi soir. Ça va.
Donc je sais pas moi, hein, on va rester sur cette considération. Mais non, il y a un vrai problème de consommation d'alcool pour le coup en France, et ce qui est assez terrible, c'est que... Et dans le domaine politique, mais...
Est-ce que c'est un milieu de représentation
Oui, t'as le fameux truc qu'on appelle l'alcoolisme mondain, mais aussi parce que c'est un milieu d'énormes mises sous pression, en fait. Donc t'as aussi des conduites addictives pour relâcher un peu. Et puis en fait, moi, ce qui me choque beaucoup en France, c'est en comparaison à d'autres pays, c'est que j'ai l'impression que c'est pas du tout un problème pris au sérieux. Genre, tu vois un pote où tu te dis, mais en fait, là, le gars, faut qu'on l'aide, il y a un problème d'alcoolisme. Tu vas voir qui ? Et je trouve que c'est trop peu connu, trop peu... Donc peut-être que je vais me renseigner sérieusement à ce sujet et que j'essaierai d'y partager des choses.
Non, mais c'est un vrai sujet. Et les lobbies n'aident pas. Hein.
Je ne comprends pas qu'il y ait de l'alcool à la buvette de l'Assemblée. Alors par contre, sachez qu'il n'y a plus d'alcool à la buvette de l'Hôtel de Ville. Ce qui est une bonne chose.
À la buvette de l'Assemblée, c'est sûr.
À la buvette de l'Assemblée, oui, encore. C'est plus facile de marchander autour d'un verre. Eh bien moi, je crois pas du tout. J'ai envie de croire à la rationalité, à la sensibilité, et qu'on est capable d'être à la fois gentil et intelligent sans avoir bu.
Ouais, c'est clair et sympa.
C'est une question un peu compliquée, mais selon vous, comment, à une échelle humaine, être féministe en tant que mec ? Les gars, je vais... Alors, si, c'est un peu compliqué sur l'aspect comment tu mets l'éthique, ta classe politique en soi, enfin... Mais franchement, là, il nous faudrait 2 heures. Comment être féministe en tant que mec ? Déjà, la première chose, c'est d'apprendre à se taire. Et en fait, ça peut paraître brutal dit comme ça, mais vraiment, il y a un truc de apprendre à ne pas prendre la place.
C'est clair, vous vous rendez pas compte.
Et juste avec ce petit réflexe-là, et dites-vous que peut-être que je vous le livre de manière un peu abrupte et tout, mais juste ce petit réflexe-là dans un coin de votre tête,
c'est un enfer.
Je jure, ça aiderait de ouf.
Moi, j'ai un exemple. Là, cet après-midi, je fais une espèce de conf call pour préparer une intervention sur les journées de la participation à Amiens. Peu importe où je vais intervenir. Le mec, en introduction, il nous a fait un tunnel, mais un tunnel de 20 minutes pour dire en cercle, en boucle, la même chose. C'était insupportable. Derrière, il y avait 3 meufs. Elles ont dit des choses intéressantes, de manière concise, simple, claire. Mais le mec qui s'est tapé un tunnel pendant 20 minutes. Mais genre 20 minutes de tunnel pour dire la même chose en boucle. Et en plus, il a commencé par « je vais pas être trop long ».
Ils sont jamais trop longs, voyons.
Et là, c'est toujours... Généralement, ça pue, quoi. Quand quelqu'un commence une phrase par « je vais pas être trop long », là, ça pue. Vraiment.
Néanmoins, moi, je vais vraiment apprendre à me taire parce qu'il va falloir que je vous quitte.
Oui, c'est vrai qu'il y a certaines femmes qui parlent beaucoup aussi, quand même. Bon, merci les gens.
Je redonne le micro à la dame in charge.
Eh ben, on va vous dire au revoir. On espère que vous avez passé un bon live. C'était le live de rentrée. C'était notre première invitée, Raphaël Rémy Leleu. Merci beaucoup.
Merci. Prenez soin de vous. C'était sympa.
Et puis, ben, je sais pas trop quand est-ce qu'on va se redonner rendez-vous, mais je pense la semaine prochaine. Je vais essayer de trouver quelqu'un de dispo. Et voilà, voilà. C'était très intéressant. Bravo, merci. Oh, merci, merci, merci. Des bisous le chat et à très vite.
Bye-bye.
Salut.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.